OK, troisième heure. Vous avez entendu Marc Fortin là, nous parler de ses sorties de route, hein, la petite neige là, sur laquelle, évidemment, plusieurs de nos concitoyens glissent. Puis se retrouve dans le paysage. Évidemment, vous prenez pas de risque pour nous écrire, mais si jamais vous êtes passé à côté d'un endroit où il y en avait, là, vous avez vu, observé des choses et que vous pouvez nous texter en toute sécurité, 98985, là, vous pouvez le faire. Si on s'aperçoit là, que ça se détériore trop, on prendra peut-être un petit peu de temps pour parler de la situation. Donc, voilà pour les sorties de route. On va parler un petit peu de ce qui se passe à la prison de Saint-Jérôme, là, qui est aux prises avec une importante éclosion de COVID-19. Ça pose la question, évidemment, de la vaccination dans les centres de détention. Le match du Canadien ce soir, match revanche contre Vancouver. Évidemment, on a perdu hier, mais on a quand même marqué un point. On a engrangé un point, dis-je, parce qu'on s'est retrouvé en prolongation. Et Christian Page qui va nous parler de ces personnes qui pensent avoir un don parce que, je ne sais pas, il y en a qui pensent qu'elles sont médiums, des personnes qui pensent qu'elles sont des médiums, d'autres qui pensent qu'elles sont des guérisseuses, des guérisseurs, des ramancheurs. Il va nous parler de ce phénomène-là, Christian Page. Mais d'abord, Luc Lavoie est là. Bonjour, Luc.
Salut Bernard.
Et Valérie Beaudoin se joint à nous. Bonjour Valérie.
Bonjour à vous deux.
Alors on va prendre un petit peu là le relais d'hier. D'abord, je l'avais dit là, vous allez pouvoir tous les deux nous raconter l'histoire que vous n'avez pas pu nous raconter hier, ces anecdotes qui nous ont laissés en suspens, hein, accrochés à vos lèvres l'un et l'autre. Alors vous allez pouvoir nous raconter ça. Mais d'abord, faisons quand même, Valérie, un petit tour d'horizon là, sur ce qui se passe à Washington. Première journée complète de Joe Biden à la Maison-Blanche.
Oui, aujourd'hui, il est occupé encore comme hier. Hein? Je ne sais pas si vous avez regardé le spectacle en soirée.
C'était magnifique.
J'ai adoré, moi aussi, j'ai adoré. Je trouvais que ça donnait le ton à l'unité, à ce message justement que Joe Biden passait hier et répétait plusieurs fois. Très, très contente de ce qu'ils ont fait hier. Et aujourd'hui, eh bien, c'est le boulot, le travail, les défis et ce qui est la priorité de l'administration Biden, c'est la pandémie. Parce que là, on réalise en arrivant justement à la Maison-Blanche, on n'est plus dans l'étape de la transition. La pression est sur l'équipe de Joe Biden et on se rend compte que le plan de vaccination et la stratégie, il n'y en avait simplement pas. Donc, on se retrouve à devoir développer ça, à devoir aussi s'assurer qu'on ait assez de matériel médical, qu'on soit en mesure de vacciner. Parce que je vous rappelle l'ambitieux projet de vacciner 100 millions de personnes en 100 jours.
Luc, je veux pas utiliser des grands mots puis des gros mots, là, mais de laisser comme ça la Maison-Blanche sans stratégie de vaccination, sans stratégie de lutte à la COVID, c'est de la grosse, grosse négligence, là.
C'est de la négligence que je qualifierais de criminelle.
Bon, je voulais pas prononcer ce mot-là.
Ben,
là. C'est parce que là, criminel, ça implique...
Non, c'est 400 000 morts.
Je comprends, mais là, c'est parce que là, si tu vas là, Luc, ça veut dire qu'on pourrait traduire Trump devant un tribunal?
Oh, ça, je le sais pas. Tu sais, il y a toutes ces questions d'immunité qui devront être débattues parce que je pense que des cas judiciaires, il va en avoir dans la famille Trump. Là. Je sais qu'il y a une grande avocate de New York qui s'apprête à déposer 2 poursuites en diffamation. Je pense qu'il y a également des enquêtes qui sont en cours. Il y a des enquêtes qui sont en cours dans l'État de New York. Il y en a ailleurs. Alors, toute cette question d'immunité, un jour, va être débattue, d'autant plus qu'il va y avoir un procès en destitution. Mme Pelosi a dit ce matin qu'elle ne pouvait pas encore dire quand est-ce et précisément qu'elle allait débuter, mais très bientôt. Je continue de penser que c'est pas très brillant, cette affaire-là. T'sais. Vraiment, là...
C'est une distraction.
Ben, c'est une distraction, puis aussi une invitation à l'espèce de vengeance verbale. Là,
ouais,
c'est comme...
Ouais.
Tiens, on va vous taper dessus, vous nous avez humiliés pendant 4 ans. Si tu veux unifier le pays, je le sais, on peut avoir ce réflexe-là puis dire, garde, il a tout fait ça de mal, alors il faut y faire payer. C'est pas comme ça que tu veux unifier le pays. C'est vraiment pas comme ça que tu veux unifier le pays.
Ça, c'est, je vous dirais à tous les deux, là, c'est il y a une chose qui m'agace, moi, là, qui m'agaçait avant hier, là. J'écoute CNN, évidemment, puis bon, on sait bien que c'est pas des partisans de Trump, mais à un moment donné, c'était trop. C'était
Beaucoup,
c'était ben trop le c'était trop partisan, c'était trop anti-Trump, c'était comme, OK, on le sait que vous ne l'aimez pas, voulez-vous, s'il vous plaît, là, lever le pied un peu, gardez-vous une petite gêne, puis on peut-tu comme passer à une autre étape, arrêtez de nous rabâcher les oreilles avec votre rhétorique anti-Trump. Honnêtement, là,
puis, à un moment donné... Puis aussi, leur espèce de sortie dithyrambique à l'égard de Joe Biden,
on
va voir ce qu'il va faire, Joe Biden.
Ça manquait de distance, Luc.
Ben, ça manquait de distance, ça devenait extrêmement agaçant.
Bon, là, je veux savoir, Valérie, la stratégie de Biden, là, qu'il doit rendre public aujourd'hui, là, il la rend public à quelle heure? On le sait-tu quand est-ce qu'il va déballer son plan de match? Parce que c'est aujourd'hui là, qu'il est supposé nous dire comment il va faire plus de tests de dépistage, comment il va accélérer la campagne de vaccination, comment il va s'assurer que le matériel nécessaire est rendu disponible au personnel médical. C'est aujourd'hui, ça?
Oui, c'est aujourd'hui. Ça doit même être en ce moment qu'on devait dévoiler tous ces détails-là, mais on sait que les journalistes ont eu ce qu'on appelle un briefing technique. Donc, on a déjà quand même eu les détails parce que c'est autour de 200 pages. Cette stratégie-là qui inclut le fameux plan de 1900 milliards de dollars, ce plan de relance économique qu'il a promis de faire aussi, qu'il veut faire passer au Sénat. Donc ça va être un autre défi avec tout ce qu'il y a sur la table. Et Luc
pas encore le cas, là, je te le dis.
Non,
Biden n'est pas encore en point de presse. J'imagine que c'est lui qui va rendre public ça. Là. C'est lui qui... Oui, bon, OK.
C'est ce qu'on dit. Et qu'à 16h, on va revoir un visage qu'on connaît bien, le docteur Anthony Fauci, qui va être aux côtés de la nouvelle secrétaire de presse de la Maison-Blanche pour répondre aux questions des journalistes. Parce qu'on a dit, on veut avoir ces espèces de points de presse à tous les jours pour informer le public. Et ils n'ont pas parlé que c'était criminel, comme Luc a utilisé ce mot-là. Ils ont parlé surtout là, d'incompétence et de choc de voir qu'on se retrouvait comme ça. Et c'est la preuve que c'est important, la transition, la fameuse transition pacifique là, qui dure plusieurs semaines. C'est la preuve aussi que ça n'a pas été fait dans les règles de l'art et voilà ce qui est la conséquence.
Et en préparation de cette annonce-là, le docteur Fauci a été délégué à une réunion internationale de l'Organisation mondiale de la santé, c'était évidemment virtuel, là, pour dire nous reconnaissons le travail que fait l'Organisation mondiale de la santé, nous revenons à l'Organisation mondiale de la santé, nous allons nous acquitter de nos cotisations. Donc, c'est dans cet esprit.
Bon, hier, alors on va aller sur nos anecdotes là, parce que je veux vraiment tenir parole. Hier, donc, on parlait, Luc, de cette nécessité, évidemment, de bien protéger le nouveau président. Tu nous disais, le service secret américain, c'est déjà une machine incroyable. Des fois, même, ils en font un peu trop. Tu nous as donné l'exemple de ce militaire, de ce jeune militaire, fils d'un député au Parlement. Et puis là, le président américain appelle Schwarzkopf dans le désert. Puis il retrouve le garçon, puis les parents sont heureux, puis tout ça. Et là, tu allais me raconter une autre histoire. Celle-là, je pense, se produisait à Paris.
Oui, à Paris, en 1989, c'était le bicentenaire de la Révolution française. Ouais. Et c'était aussi la tenue d'un G7 qu'on appelait à l'époque. Alors, il y avait 52 chefs d'État et de gouvernement qui étaient là pour le grand défilé du 14 juillet. Tu peux imaginer la logistique au cœur d'une ville comme Paris de déplacer 52 chefs d'État. Et les plus importants étaient là. Alors, les Français avaient développé une logistique assez efficace et ils avaient assigné à chaque chef une voiture de marque Renault blindée, tout ce que tu veux, avec l'escorte de motards, avec tout ce que tu veux. Les Américains ont dit non, il n'y en a pas question. Nous autres, on va utiliser notre limousine qu'on appelle de beast. Là, les Français voulaient pas, puis ceci. Bon, ils ont fini par utiliser leur limousine. Alors, il y a deux anecdotes que j'ajoute à ça. C'est que quand les chefs d'État se sont présentés plus ou moins à peu près là où est l'obélisque, là, devant l'Assemblée nationale, quand les voitures se sont présentées, tout à coup, tu as vu arriver en tout dernier un convoi américain avec des voitures différentes. Et là, la foule a commencé à huer. Maintenant, ils n'étaient pas au bout de leur peine. C'est que ils avaient décidé qu'il y avait une très grande réception à l'Élysée, dans les jardins et à l'intérieur, et que pour des questions d'espace, ils pouvaient pas laisser les forces de sécurité des différents pays être à l'intérieur. Ils permettaient à tout le monde d'en avoir un. Et les Américains ont dit « Jamais! Nous autres, jamais on va mettre les pieds dans l'Élysée. » Les Français ont dit « Nous autres, on lâche pas. » Alors, à un moment donné, je l'avais vu de mes yeux. Je me souviens que le chef de cabinet, le directeur de cabinet du président à l'époque, était un ancien gouverneur du New Hampshire qui s'appelle John Sununu. Et Sununu est arrivé pour rentrer et les Français ont fait signe aux forces de sécurité américaines, vous n'avez pas le droit de rentrer. Quand les Américains ont voulu forcer, les Français ont sorti les armes.
Ben voyons donc, t'as vu
oui,
ça?
Ben, oui, j'ai vu ça.
T'es-tu sérieux?
Ben, il n'y a pas eu de coups qui ont été tirés, parce que rapidement, il y a un officier français qui a dit « OK, on arrête, le bang, terminé ». Alors, c'était pour illustrer comment...
Mais qui a plié, finalement?
Ils ont laissé rentrer 2-3 Américains. Je ne l'ai pas compté, mais 2-3 Américains, à peu près, qui ont laissé rentrer, eux autres voulant rentrer une vingtaine. Alors, c'est ça, un peu la sécurité du président des États-Unis. Quand je te dis que c'est show-off, là, ils font tout un spectacle, puis bon. Parfois, ça a l'air un peu cave.
Valérie, toi aussi, tu n'étais pas en reste.
Non.
Tu voulais nous raconter une anecdote sur quoi encore?
Sur une visite de Barack Obama quand j'étais à Washington. J'avais eu un stage, moi, je travaillais comme assistante de recherche à l'Université de la Défense américaine. Donc, c'est l'université qui est subventionnée par la Défense, où il y a des militaires de partout sur la planète qui vont avoir des diplômes de maîtrise, par exemple, pour montrer comment bien combattre le terrorisme, la sécurité nationale. Bref, j'étais à Washington en 2009 quand... Barack Obama vient d'être intronisé. Il est le nouveau président des États-Unis. On se rappelle, en l'époque, Yes Weekend. Donc, moi, j'ai pas d'anecdote aussi près du pouvoir que Luc, je vous le préviens. Mm. Mais je peux vous dire comment ça s'est passé, parce que Barack Obama est venu nous visiter pour inaugurer un hall dans cette base militaire, parce que l'université était sur une base militaire, donc c'était extrêmement déjà sécurisé. Mais quand même, on nous a dit, on a un invité de marque la veille, sans nous nommer Barack Obama. On a dû quitter en début d'après-midi les bureaux. Le lendemain, c'était 24 heures plus tard qu'il venait, Barack Obama. Ils ont passé la nuit à vraiment inspecter tous les étages. On avait des chiens pisteurs partout dans l'université qui est sur une base militaire. Je vous rappelle qu'on est déjà avec une certaine sécurité. Et le lendemain, on nous a dit « Apportez-vous un livre et votre appareil photo ». On a dû rentrer dans la salle. Il était avant même l'heure du dîner. On nous a fait attendre pendant 3 heures pour compléter encore une autre fouille du bâtiment. On était donc dans l'amphithéâtre à attendre Barack Obama pour un discours, quoi, de 10-15 minutes.
Saviez-vous que c'était Obama, là? Vous commenciez à vous en douter, j'imagine?
La journée même, et juste pour vous dire aussi qu'on a eu les gens qui étaient stagiaires ou qui travaillaient dans des postes d'assistants de recherche. On a pu avoir un siège pour se rendre parce que les généraux républicains et d'autres haut placés républicains voulaient aller jouer au golf. Ils voulaient pas voir Barack Obama. Il ne voulait pas assister justement à son allocution purement par des raisons politiques. Donc, ils nous ont laissé leur place pour pouvoir avoir Barack Obama. Donc, ça a pris 24 heures dans une base juste pour recevoir le président des États-Unis pour s'assurer que c'était sécurisé.
C'est quelque chose. Luc, avant de se laisser, on va faire un petit détour par l'Ontario.
Oui.
Parce que là, Doug Ford, évidemment, la situation en Ontario n'est pas jojo, quoique les cas ont commencé à baisser, c'est ce que nous disais hier. Là, ça a recommencé à monter.
Ouais.
Alors, tout ça pour dire que Ford a décidé de prendre une initiative assez originale.
Oui, en effet. on lui a dit, quand il avait rendu public les consignes il y a à peu près 2 semaines, que c'était trop compliqué, que les gens ne comprenaient pas. Puis là, il avait dit, c'est pourtant simple, restez chez vous. OK? Et là, il l'a relancé par Twitter. Et là, il le fait en 22 langues.
Extrait, Luc.
Hi, folks. Ouais. There's one thing that's uniting all of us in Ontario. And that is stay at home. Restez à la maison. Taizai jolly. Low fun. Hi, OK. Stare e casa. Curre roll. Cadete en casa. Shalik vi alabait. Manatili. Sabahai, Garmay, Rahir, Fika, Inkaz.
Écoutez, on les fera pas toutes, là. Alors, vous avez en anglais, en français, Estare a casa, Quedate a casa. Bon, hein, bon. Alors, anglais, français, mandarin, cantonais, italien, punjabi, espagnol, arabe, tagalog, ourdou, portugais, allemand, farsi, polonais, tamoul, russe, vietnamien, coréen, hindi, grec, ukrainien, turc.
Voilà.
Puis là, j'imagine, mettons que tu parles turc, tu l'écoutes parler turc, je suis pas sûr que tu comprends ce qu'il dit. Vietnamien.
C'est un bel effort.
On va dire que c'est un effort. Alors,
mais moi, je n'ai 2 dernières pour toi, Bernard.
Ah oui, bon.
OK, il y en a une, c'est le chef des États-Unis, en même temps que M. Biden était assermenté. Nouveau record, 4440 morts. Le dernier record remonte au 12 janvier où ça avait été 4254 morts. Et la dernière, ben, elle est assez formidable. Tout le monde a entendu parler ou même a visité Bali en Indonésie. C'est un endroit absolument splendide.
Oui.
Et là, ils ont décidé qu'ils allaient appliquer une nouvelle méthode pour que les touristes à Bali respectent les consignes. Alors, quand ils attrapent quelqu'un qui n'a pas respecté les consignes, et il y a des photos puis tout ça qui ont été diffusées un peu partout, les policiers arrivent puis ils les forcent à faire 50 push-ups. Je pense Monsieur Legault devrait y penser.
Oui, 50 push-ups.
50 push-ups. T'as pas été fin, 50 push-ups.
Ouais, ah ouais. Ou 50 redressements assis.
Ben, c'est ça. Non, tu peux leur faire un deal, je vais en faire 25
redressements. 25 de chaque. Merci, mon cher Luc.
On se parle de hockey tantôt.
Absolument. Valérie Beaudoin, merci beaucoup à toi aussi.
Merci. Bonne journée.
Ben oui, absolument. Après la pause, on va parler de la prison de Saint-Jérôme. Éclosion majeure. Est-ce qu'on devrait prioriser la vaccination dans les centres de détention? Il y en a qui le pensent. Après la pause.